Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shapeologie, podcast dédié au surf, aux planches et au shape. Aujourd'hui, on est avec Jean, qui shape sous le nom de Nash Surfboard à Anglette, dans le Pays Basque. Comme d'habitude, on parlera de son parcours, de ses influences et de ses planches. Pensez à passer sur notre site shapeology.fr ou sur notre compte Insta shape.ology pour en savoir plus sur lui et sur les planches dont on parlera tout à l'heure. Bonne écoute! Jean Péninck. Je suis originaire de Montalivet et ça fait une vingtaine d'années que j'habite dans le Pays Basque. Et j'ai commencé le shape il y a bien presque quand je suis arrivé ici. Un peu après quand même. Donc je dirais une bonne quinzaine d'années. 15 ans déjà. Voilà.
T'as commencé comment ?
J'ai commencé parce que j'ai toujours voulu shaper depuis que je suis arrivé ici. Pourtant, j'avais un niveau en surf qui était pas non plus ouf. Mais j'ai toujours voulu fabriquer des boards. J'ai toujours fait des choses avec mes mains et tout. J'ai toujours été assez manuel. Et ça a mis du temps parce qu'il a fallu que je rentre un peu. J'essaie de trouver une salle de shape. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas de shape école, tout ça. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour apprendre à shaper. Et donc j'ai rencontré mon pote Thibaut avec qui je shape toujours aujourd'hui. Sa marque c'est Spo Surfboard. Et il fait beaucoup de twin. Et en fait on a commencé à shaper ensemble. Lui il shapait déjà des finless à l'époque. Et moi j'ai commencé à shaper une planche, à déstratifier une planche que j'avais trouvée. Chez Daniel's Longboard. Et c'était un vieux single avec lequel j'ai fait un fish. C'était la première planche.
Et t'as appris tout seul du coup?
Et on a appris tout seul. Ouais, alors du coup, vu que moi j'ai deux activités, je fais des films aussi. J'avais fait quelques images de Daniel. Donc j'avais entre lui et puis les films que j'avais vus sur le shape, les gens que j'avais photographiés aussi. C'était un peu le watch and learn quoi, tu vois, j'apprenais en regardant et en l'occurrence en filmant ou en photographiant et puis après on a appris en faisant quoi, c'était vraiment de l'autodidacte hein. On est comme ça tous les deux avec Thibaut, donc on apprenait et puis il y avait toujours un peu un tac au tac tu vois pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontrait quoi, pour faire des planches. Et puis après ça a commencé comme ça, j'ai commencé à faire des. Au début ça a été juste des répliques de planches que j'avais bien aimées, deux ou trois. Et puis après j'ai commandé une planche par-ci, une planche par-là, et j'ai commencé à rallonger les planches que je surfais et aussi à rallonger les planches que je shapais. Et à un moment dans le process, je me suis dit qu'il fallait que je shape que mes planches. Que je surfe que les planches que je shapais, pardon. Mmh. Et puis ça a vraiment commencé comme ça en fait.
Mais à ce moment-là, tu les faisais que pour toi les planches ou t'avais
ouais,
des.
Ouais, je les faisais pour moi. Et puis tu sais, à l'époque, il n'y avait pas. Tu vois, t'avais le Bon Coin, mais t'avais peu de gens qui vendaient des planches un peu alternatives. Des fiches, des eggs, des hulls, des longboards, des trucs comme ça, c'était rare en fait. C'était rare, ça coûtait cher en longboard, tu vois, parce que souvent tu avais des Californiens ou des shapers locaux aussi, mais ça restait, c'était pas donné. Et du coup, moi, au tout début, je vendais les planches pas très très cher, quoi, c'est normal, tu vois, prix du matos. Alors du coup, il y a plein de potes, tu vois, à qui j'ai lâché des boards comme ça, et puis moi, ça me permettait d'acheter du matos pour la prochaine, quoi, en fait, tout simplement. Et voilà.
Et de là, tu t'y es mis rapidement à plein temps ou t'étais plus sur le film quand même à cette époque?
Ah non, j'étais pendant quasiment 10 ans, j'ai shapé en faisant. Moi, j'avais une entreprise de production audiovisuelle en fait. Je faisais des films et. Merde. Pardon. Je faisais des films en fait et. la journée et le soir j'allais GP à l'atelier quoi. C'était oui. ça le truc. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Thibaut lui il avait un atelier qu'il avait récupéré via Colors, ça s'appelait avant, c'était Notox. C'était le shaper de Notox. Et en fait ce qui s'était passé c'était que c'était un atelier de shape qui avait été investi par plein de gens différents, des artistes, des peintres, un mec qui faisait de la lutherie, un gars qui squattait, un autre peintre, un pote de Thibaut, et en fait au milieu de l'atelier il y avait une salle de shape que nous avec Thibaut on louait. Donc c'était tous des sous-locataires en fait. Et à mesure que on faisait tout dans la même salle, c'est-à-dire shape, glace, ponçage, templates, enfin tout, on faisait tout dedans. Mais elle était fonctionnelle parce que ça avait été fait pour ça. Et petit à petit, en fait, y a pas mal d'artistes qui sont partis. On a commencé à garder un peu plus l'espace que le reste de l'espace de l'atelier. Jusqu'à un moment, réussir à avoir la salle qui était la salle de glace. Et du coup, on a fini par avoir tout l'atelier. Et à partir de ce moment-là, on a monté une asso, en fait, avec Thibaut, pour apprendre aux gens à faire leurs planches. Et donc, on apprenait tous ensemble parce que nous aussi, ça faisait partie de notre processus d'apprentissage, tu vois, du shape. C'était d'apprendre aux autres et puis le fait de parler et évidemment de partager, ça a fait un effet miroir et il y a plein de choses qu'on a appris en apprenant et en partageant en fait. Et c'était un bon délire, on a créé une petite communauté autour du shep avant que tout ce délire du shep arrive. Tu vois, on faisait des films, on faisait des concerts, Et puis il y a beaucoup de gens qui venaient en fait, parce que évidemment c'est le graal de tout surfeur de fabriquer sa planche, tu vois, au moins une fois. Et pas d'en faire spécialement un métier, mais d'essayer, tu vois. Ouais, c'est quand même super, tu vois, de fabriquer un peu l'objet, tu vois, du plaisir, quoi. Je sais pas comment dire ça. Et en fait, ça marchait tellement bien qu'à un moment, ça nous a dépassé, ça nous prenait énormément de temps. Et évidemment, c'était une asso, donc nous, on gagnait pas d'argent. Ça nous payait 2-3 conneries d'atelier, mais ça nous est gagné que dalle. Et à ce moment-là, en fait, c'est au moment où on avait commencé à prendre un peu de niveau en shape quand même. Je commençais à avoir quelques petites demandes, tu vois, de grandes planches, voilà. Et ce moment-là, on s'est fait virer de l'atelier parce qu'on avait un bail précaire et tout le complexe qu'il y avait autour de l'atelier, c'était plein de petits ateliers et ça a été revendu et le gars, il a voulu récupérer notre partie d'atelier pour faire un autre truc. Et donc, on s'est fait virer. Et quand j'ai eu une chance de ouf parce que j'ai retrouvé le deuxième atelier qui est dans la zone du port de plaisance d'Anglette. Et en fait, quand on a changé d'atelier, on a arrêté l'association. Parce que ça nous prenait tellement de temps qu'on ne voulait pas que ça continue. On voulait faire aussi nos planches. Et moi, personnellement, je voulais vraiment développer mes modèles. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé Nage. Je signais déjà Nage parce que signer les photos comme ça déjà avant et puis c'était resté, les gens finalement ils commençaient déjà à m'appeler Nage parce que je signais ça et je me suis dit qu'il fallait développer aussi et puis j'avais eu plein de conseils de copains surfeurs, ils me disaient faut que tu développes tes modèles, faut absolument que tu fasses tes propres modèles quoi. Et du coup c'est comme ça après que ça a commencé et que j'ai commencé à développer à fond avec le nouvel atelier quoi,
Et c'était il y a combien de temps ça du
coup ? Ça c'était il y a 7 ans.
Il y a 7 ans. Ouais. Donc là depuis ce moment-là, fais ça.
Je toujours continue à faire de l'image ouais, et tout. Donc c'était 50-50. Et puis après avec le Covid, il y a eu énormément d'activités en fait. Tout le monde a voulu des planches. Tout le monde l'a vu. Tout le business de l'outdoor il a explosé. Tout le monde voulait sortir des villes, évidemment. Tout le monde voulait sortir de chez eux. Tu vois, passer du temps en plein air. Et le surf, il a aussi explosé à ce moment-là, évidemment. J'ai eu énormément d'activités. Ce qui fait que mon ratio 50% film, photo et puis 50% shape, Bah ça c'est il y a eu enfin j'ai fait du ça fait là ça fait de depuis le Covid ça fait 2-3 ans où j'ai un peu moins d'activité de photo mais j'ai beaucoup de planches quoi. Donc voilà.
Et tu continues encore aujourd'hui quand même un peu la
La
production
vidéo, ouais, j'ai un film en cours que ça fait des années que j'ai commencé ce film mais c'est marrant parce que cet atelier ça a marqué ce changement d'atelier, ce nouvel espace, ça a marqué un changement aussi de pas mal de choses. Et du coup, j'ai mis le film de côté pendant quelques années. Et là, je vais justement essayer de relancer. Je suis en train de commencer à faire le montage parce que j'ai tout filmé, mais il faut que je me mette au montage en fait. Et là, ça va ressortir, j'espère, cette année. Et
Film
voilà.
de surf ou rien
Un
à
film
voir?
de surf, ouais, un film de
Ouais.
surf. Un film de surf et de genre de petits voyages visuels sur le surf et la musique. Et y a pas mal de surfeurs d'ici, il y a pas mal d'images qui ont même aujourd'hui pas loin de 10 ans.
Ah oui, ça
Et j'ai
remonte, ça.
tout. Enfin, c'est entre. Les images, elles ont entre 7 et 10 ans, plus ou moins. Non, enfin, entre. Pardon, 3 et 10, 3, 4 et 10 ans. Et il y a pas mal de surfeurs de la scène un peu indépendante du shape, du surf ici. D'ici, et puis évidemment de Californie, d'Hawaï. Donc voilà.
C'est des voyages que tu as fait
Ouais, c'est des voyages que j'ai fait, ouais. Je suis parti
spécifiquement pour ton
pour
film.
le film, ouais. Donc j'ai fait la Californie, j'ai fait l'Espagne du Sud, l'Irlande, Hawaï, New York. Et la France, évidemment.
Et tu y es resté longtemps?
Bah, la Californie et Hawaï, je suis resté en tout sur une année. Je suis entre le travail et le projet du film parce que je mélangeais un peu les deux. Il fallait bien parce que le film de surf ça fait pas de sous, hein, donc il faut toujours
Ouais.
essayer de trouver des moyens pour essayer de compenser le temps que tu gagnes, que tu perds, on va dire, à filmer ça. Mais faut que l'argent rentre à un moment ou à un autre. Donc j'avais des projets pour faire de l'image aussi là-bas. Et cette fameuse année, je crois que c'était 2016 ou 17, je crois. 17? Peut-être 18. 17 ou 18. J'ai passé bien 6 mois aux États-Unis quasiment.
Oui, quand même.
Ouais.
Compris Hawaï quand tu
Et
dis que tu
compris
as
Hawaï, ouais. Et Hawaï, j'ai passé quasiment 2 mois. Bah après les États-Unis, la Calif, j'ai fait pas mal d'allers-retours, j'avais passé pas mal de temps à New York aussi.
Et comment t'es rentré en contact là-bas avec
Bah,
c'était des gens que tu
moi, je...
connaissais, c'était.
Alors, il y avait Hawaï, c'était. Je suis allé à l'origine pour filmer un shaper ici, qui est d'ici, alors de Guétari, qui s'appelle Eric Morus, qui est quand même une sorte d'ambassadeur, si je peux dire ça, de la culture du surf et du shape. Traditionnel et lui il a déménagé carrément hein, à force il habite maintenant à Hawaï et je l'avais filmé en surfant et puis ça, la vie un peu là-bas et puis du coup j'étais parti le rejoindre là-bas et j'avais filmé aussi d'autres personnes un peu à l'improviste aussi j'avais filmé une fille qui s'appelle Rosie Jaffer qui est une bonne longboardeuse un couple comme ça de surfeurs qui surfait hyper bien et qui surfait des vieilles planches. Un mec qui s'appelle Coupé avec sa femme Raquel. Et des super surfeurs. C'est marrant, tu sens que la culture là-bas elle est vraiment ancrée. Il y a une sorte de respect du surf, de l'océan que nous on n'a pas. Et là-bas il y a quelque chose de sacré en fait. Et tout ça c'est parce que c'est l'histoire. Hein. Tu sais, les gens, les Hawaïens, c'est pas un conte, hein. Ils se mariaient en surfant à l'époque et ça met le surf vraiment au centre, tu vois, des vies et l'océan évidemment. Et en fait, ça change tout. Ça change tout. Les gens, ils ont un respect pour leur pratique et pour le surf que nous, on n'a pas ici. Tu vois. Là-bas, ça peut pas arriver, tu vois, une histoire comme l'histoire de la côte des Basques qui a commencé à être le spot où le surf est arrivé et qui finit par être le Megève du surf, tu vois, avec le tourisme, les écoles, tout ce que tu veux. C'est là-bas, ça n'a rien. Il y a trop de respect en fait pour le surf et l'océan pour que quelque chose comme ça arrive. Il y a des cours de surf, mais c'est des cours particuliers, par exemple. Il n'y a jamais plus de 2, 3 maximum d'élèves par école. Ça change tout. Et déjà, ça les fait chier. Hein. Déjà, ça fout la merde là-bas, les écoles de surf.
Et t'étais dans quel coin ?
J'étais logé chez un ami à Kailua. Qui est à côté sud, et c'est les houles c'est sud, donc c'est les houles de sud qui arrivent. C'est plus des houles, des spots d'été normalement, mais t'as plein de quand même de spots qui marchent, qui sont un peu moins connus. Et j'allais au North Shore pour shooter parce que j'ai beaucoup filmé sunset et après d'autres spots, un petit peu de pipe. Un petit peu de chance aussi.
Et là-bas, quand tu filmais, t'étais incognito, personne te posait de questions
Ouais, non.
Ouais.
Tu filmes comme ça sur la plage, tu fais ce que tu veux. Hein.
Ouais.
De toute façon, tu vas sur la
plage.
Je sais
pas, c'est des spots tellement mythiques que je me dis que.
Non, sunset.
Les places sont chères sur.
Non. Alors, j'ai pas trop filmé dans l'eau, mon grand regret. Parce que j'avais pas le matos qui allait. En fait, j'avais une petite. Parce que j'adore filmer dans l'eau. Et j'avais une petite caméra, mais ça suffisait pas en fait pour aller se foutre là-bas. Parce que j'avais un truc qui tenait pas du tout la batterie. Et rien que le temps d'aller à Sunset au bout, t'en as pour une demi-heure, j'aurais pu filmer un quart d'heure, tu vois. Et je serais rentré. Et puis j'avais pas aussi l'engagement que j'ai aujourd'hui dans l'eau, à aller surfer des vagues un peu plus conséquentes, tout ça. Mais ça me donne envie d'y retourner. Enfin bref, c'était un bon truc à Hawaï pour pas mal de choses. Il y a une énergie particulière aussi là-bas au niveau du. C'est les cimes d'une montagne à Hawaï qui est sous l'eau. Et tu le sens en fait, c'est marrant. Il y a un côté sommet, il y a quelque chose de. Ouais, t'es au sommet d'une montagne en fait, sauf que tu la vois pas, mais elle est là quand même. Et il y a une énergie particulière assez forte. Puis évidemment, l'océan, t'es en plein milieu de l'océan, donc l'énergie, tu la ressens partout, quoi.
Ouais.
Elle arrive tout autour de toi, et puis ça, le swell là-bas, il arrive de plein fouet, hein, c'est pas la même chose. Tu te prends, là, t'as une vague d'1m50, tu te fais éclater, tu perds ton short, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas comme ici.
Ouais.
C'est beaucoup plus tranquille ici, beaucoup plus. C'est pas du tout la même. Ça force le respect aussi, l'océan là-bas, je trouve. C'est cool.
Ouais. Oui, et puis comme tu dis, c'est une partie intégrante de la culture, donc c'est pas du tout le même rapport historique.
Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien
et
à
t'as chépé pendant ce voyage, que ça soit
du
Calif
tout,
ou Hawaï,
du tout. J'étais témoin, en fait. C'était marrant. J'étais un témoin visuel de ma découverte de là-bas, parce que évidemment, je filmais en même temps.
Donc tu suivais Eric ?
Je suivais Eric, et puis en partie, hein, parce que j'étais pas chez lui, en fait, mais. Je le suivais lui et je suivais aussi Rosie parce que j'ai passé pas mal de temps avec elle à la filmer. C'est là aussi que j'ai rencontré le Todd Pinder qui a un atelier, je crois que c'est Macapu Boulevard, un truc comme ça. Je sais plus, je vais pas dire de conneries sur les noms. Mais il est en plein dans Honolulu en fait, à côté d'un garage. C'est assez cool son spot. Et en fait, il a. À l'époque, en fait, Eric, il shapait dans la salle de shape de Sparky, qui était louée par le fameux, un des plus vieux surf shops de Hawaï, qui s'appelle Inter Island Surf Shop, chez qui énormément de shapers de l'époque sont venus shaper. Et il est classique, il est magnifique le shop, on dirait que t'es dans les années 50, tu vois, quand t'es là-bas et tout petit, sur le boulevard comme ça, avec le logo de ouf. Et en fait, cette salle de Shep dans laquelle j'ai payé Eric, à côté, il y avait ce Todd qui avait son atelier, qu'il l'a toujours d'ailleurs, et qui chépait là-bas. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et Todd, en fait, c'est un mec qui est passionné de photos aussi. Il avait beaucoup d'optique et évidemment, il est passionné par plein de choses en fait, surtout le surf et photos. Il avait énormément de planches d'époque. Chez lui, tu vois, des Phil Edwards, des Curren, des Joe Quigg, tout ça. Et c'est lui qui a rencontré Joe Quigg aussi sur le tard, tu vois, et qui est un shaper et surfeur émérite, tu vois, hawaïen, qui était reconnu là-bas pour son surf, ses planches et son investissement dans Hawaï, quoi. Il était professeur, lui. Et en fait, il a rencontré, il est venu voir, hein, et ils ont partagé, tu vois, pas mal avec le Todd. Et bon, bref, le Todd, il est vachement ouvert à ça, c'est hyper cool parce qu'il adore la culture aussi hawaïenne, la culture du shape, du surf, de tout ça, quoi. Et des optiques. Et lui, en fait, le Todd, il m'avait prêté une fameuse optique, enfin deux optiques, qui sont des optiques Century. Ils ont un 580, oui, un 380, pardon, et un 600, qui sont les lenses qu'ils utilisaient, en fait, pour shooter à l'époque en photo, pour shooter sunset. C'est des énormes téléobjectifs qu'ils utilisaient sur les 16 mm. Et en fait, sur les 16 mm, le capteur, il est tout petit, ce qui fait que ça double la focale. Donc le 600, ça faisait un 1200. Donc, et vu que sunset, c'est une grande baie, il fallait vraiment se mettre de l'autre côté de la baie pour avoir un peu la vague de face. Et du coup, mais il y avait, je sais pas, entre la vague, il y avait bien un kilomètre, quoi, tu vois, c'est énorme.
Ça devait rendre la tâche pas aisée.
Ouais, mais du coup, c'était trop bien parce que je filmais comme les mecs qui filmaient à l'époque dans les années 60, quoi, ou 70, ouais. Pareil aussi. Avec, sauf que moi, j'avais une version numérique de la 16 mm, mais j'avais quand même pareil avec un petit capteur, tout ça. Une caméra avec un petit capteur, et du coup c'était super cool. Bon, bref, pour en revenir au shape, après lui, il a été hyper accueillant, le Todd, et on n'a pas beaucoup échangé.
Et t'as pas été tenté de.
Je me le suis dit, mais je pouvais pas tout faire en fait.
Ouais,
j'étais dans mon délire de film et j'avais envie de filmer en fait, tu vois, j'étais pour ça en fait.
C'est déjà un investissement à
plein
temps, quoi.
Bah ouais, c'est ça, et puis je voulais être sensible à ça parce que le problème c'est que quand tu shapes, c'est pas la même chose en fait. Moi j'aime bien être à fond dans une pratique pour être à fond dedans en fait. J'ai besoin en fait, j'ai besoin de ça. Mon cerveau il peut pas fonctionner avec deux ou avec deux activités ou trois activités, tu vois. Là je me mettais en mode film, je me suis mis en mode film à fond. Si j'y retourne, je pense que ouais, je ferai ça. C'est où j'achèterai une vieille planche et je la surferai, ou je chape une planche là-bas et je la surfe, tu vois.
Et tu me disais qu'il était venu en France chaper chez toi après Todd Pinder.
Et alors ouais, du coup des années plus tard, moi à l'époque quand j'y suis allé, j'étais pas autant installé en tant que chaper ici. Et ben Todd, on est resté en contact après ce voyage à Hawaï. Et l'année dernière en fait, il est venu chaper chez UWL. Donc à La Rochelle là-bas, et il a fait pas mal de planches et en fait quand il était là, on était en contact. J'étais là, tu veux pas venir dans le Pays Basque et tout, c'était même pas pour chéper évidemment. Et puis lui, il a dit si tu veux, je peux venir faire des quelques boards une semaine et puis en même temps on va surfer machin. Donc tu vois, le trip business spot, ça s'est bien goupillé pour lui parce que je lui ai trouvé au début il avait que 5 planches à faire. Tu vois, en une semaine c'était cool, quoi, tu vois, c'était assez intense. Il avait fait 60 planches je crois chez UWL.
Ah oui, donc
5
c'était les vacances.
Ouais, tu vois, il était là, c'était pour redescendre un peu, quoi, tu vois. On va dire que c'était une transition avant de rentrer chez lui. Et en fait il en a eu 10 à faire, tu vois. Parce que d'en parler, tu sais, d'en parler aux connaissances, et finalement il a quand même pas mal bossé parce que du coup c'était que du shape main. Et il y avait pas mal de boards. Il a fait ces modèles là de Herbie Fletcher, tout ça. Il a fait cette grande 12 pieds qu'il m'a faite, qui est justement un modèle qu'il a hérité entre guillemets de Joe Quigg, qui était une planche qui avait été faite au début pour aller ramer vers les îles et puis aller prendre une vague au retour. Et puis il s'est avéré qu'un surfeur de l'époque était passé chez Joe Quigg et avait pris cette planche pour aller surfer Macaa en mode 6 mètres. Et il y a cette fameuse photo de ce gars-là en grand drop à Macaa avec cette planche-là qui est ici et qui m'a refaite du coup avec des rails un petit peu plus doux quand même parce que la planche elle avait été faite pour une planche de rame, tu vois, donc il y avait des rails carrés dessus carrément et donc je lui ai demandé des rails un peu plus fins quand même parce que pour Guettari et tout, moi je voulais la surfer à Guettari beaucoup j'avais envie de. Enfin voilà, donc je lui ai demandé juste des rails un petit peu plus fins. Donc il m'a fait cette planche et puis il est resté là pendant une semaine. Malheureusement, il n'a pas eu de vague, mais c'est pas grave.
Et là, vous étiez déjà dans votre nouvel atelier avec Thibaut ?
Ouais.
Vous êtes encore ensemble dans l'atelier ?
Ouais, carrément, il continue à HP.
Mais ça, moi, c'était... Vous marchez pas dessus, vous arrivez à...
Non, du tout, parce que lui, il est moins, il est là quand même moins souvent que moi. Il a une activité qui est vraiment tertiaire, tu vois, on va dire. C'est son activité de chef, alors que moi, c'est plutôt mon activité primaire aujourd'hui. Et voilà. Mais, ouais, vas-y.
Non, vas-y, continue.
Je sais pas si tu avais des questions, parce que c'est vrai que ça...
J'ai plein de questions, mais c'est pas grave.
Vas-y, hein, parce que moi, je parle, et c'est vrai que ça se mélange beaucoup, les deux activités de chef et de film.
Mais c'est bien, c'est intéressant.
Ouais. Et puis, les deux sont quand même interconnectés, quoi, tu vois, parce que moi, j'ai appris énormément sur la culture traditionnelle du surf, du chef, des surfeurs, tout ça, en filmant, en fait, parce que j'ai fait des films de surf, et un truc que vous pouvez voir, à la rigueur, je t'enverrai le lien, la mixtape, où il y avait déjà ces surfeurs, Clovis, Donizetti, Arnaud Mestelan, Eric Morus, tout ça, ils y étaient dans le film, tu vois, dans mon premier film là que j'avais fait, mixtape. Et là, ils y sont encore dans ce film, et c'est aussi des visages d'ici, du surf traditionnel, tu vois. C'est des gars qui ont toujours aimé ça et qui ont toujours prôné ça et qui sont allés à fond là-dedans, quoi.
Est-ce que tu peux un peu parler de ce que tu appelles le surf traditionnel ?
Bah, le surf traditionnel, c'est la culture de la plage, du partage, et puis évidemment des planches qui se sont faites depuis les années 50, tu vois. Et il y a tout un mode de vie autour de ça, tu vois, parce que c'était des petites communautés de surfeurs qui surfaient entre eux, en fait, tu vois, et sans les écoles de surf, sans rien, tu vois. Et du coup, faut le remettre dans le contexte. Les mecs, ils surfaient la Côte des Basques. Avant, il n'y avait personne à la Côte des Basques. Il y avait des drogués dans les châchis, il y avait les logements sociaux au-dessus. Enfin, tu vois, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Donc quand eux, ils ont commencé, ou quand ils ont fait leur carrière de surf, la côte, c'était l'Eldorado, parce que il y avait peu de gens qui surfaient là-bas, parce que les shortboarders, ils surfaient peu, parce que les vagues étaient un peu molles, enfin c'était pas hyper consistant, tu vois. Mais néanmoins, il y avait quand même pas mal de vagues, enfin il y avait plein d'autres spots autour pour les petites planches, en fait, même si tu peux surfer les petites planches à la côte, évidemment. Mais... il y avait beaucoup de... C'était quand même un spot de longboarder, parce que d'une, le longboard est arrivé ici à l'époque, à la côte, et en plus, ça fait une petite baie, c'est abrité du nord, et à l'intérieur, il y a toujours des vagues, à prendre, en fait, en grande planche. Donc tu vois, ils ont toujours surfé là-bas, traditionnellement là-bas, avec les grandes planches, et voilà, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. C'est quelque chose qui a été sapé par les écoles de surf. Mais la culture, elle existe toujours, mais voilà, quoi. C'est ça qui m'a attiré, moi, c'est ces gens qui surfaient ces planches, tu vois, qui venaient d'un autre temps et avec un style particulier, singulier, qui est empreint de ces surfeurs de l'époque et de ses designs aussi, parce que une planche t'impose de surfer d'une certaine manière, tu vois. Un pic, par exemple, qui est une planche très ronde avec du volume, tu vois, et ce define là derrière, tu la surfes et avec le poids d'une planche comme ça, tu t'es obligé de la surfer d'une certaine manière, tu vois, comme il l'a surfé à l'époque, tu vois, comme tu surfes, comme un shortboard implique, tu sais, une façon de surfer aussi, quoi. Donc voilà, tu peux, les nose riders, tu les surfes d'une certaine manière, c'est des planches qui marchent sur le nose et qui sont faites pour ça, c'est assez exclusif, mais c'est fait pour ça. Et voilà, quoi. Enfin, tu vois, ces gars-là, ils m'ont inspiré parce que ils ont respecté ça aussi, tu vois. et ils étaient inspirés aussi par ça, par ces designs, tu vois, par ces vieux Nose Rider, par ces grosses planches, par ces pigs, par ces grands guns, par ces gliders, par ces grands fish, par les hulls par exemple aussi, par les eggs, par les, enfin voilà, il y a tellement de designs différents, tu vois, autre que le shortboard, tu vois. Et en fait, ici, nous, on fait vachement une différence entre le shortboard et le longboard, alors que c'est la même chose, c'est la même pratique, c'est le surf, tu vois. Et, tu vois, en Calif et en Hawaï, ils font moins cette... Il y a moins de frontières entre les pratiques, en fait. Enfin, entre les planches. Donc, voilà.
C'est, et toi, en tant que surfeur, tu as découvert le surf à Montalivet, j'imagine.
Ouais.
Et
Montalivet avec mon cousin.
À l'époque, c'était plutôt à fond shortboard.
Ouais, c'était les petites planches.
Toi, t'es passé du shortboard au longboard aussi, ou t'as toujours été, enfin d'ailleurs, je dis longboard, peut-être qu'aujourd'hui tu fais un peu de tout.
Je sais pas. Ouais, je fais de tout. Ouais. J'aime bien tout en fait dans le surf. Je viens du skate, j'ai skaté énormément, qui était une bonne quinzaine d'années à fond et en street tout ça. Et moi, au début, c'était les petites planches. Donc évidemment, ce qui m'a attiré au début, c'était les petits fish, les planches assez épaisses, tu vois, mais quand même assez fonctionnelles, les petits mini Simon, ça j'ai toujours adoré. Évidemment, parce que ça venait du skate. Et puis petit à petit, en fait, j'ai agrandi ma perception. J'ai levé la tête, on va dire. Et puis j'ai vu d'autres planches plus longues, tu vois. Et notamment les gars que je filmais à l'époque. Tu vois, Clovis, c'était un gars qui m'a vachement inspiré sur les planches parce qu'il surfait énormément de planches différentes. Et évidemment, il les surfe bien, donc c'est forcément inspirant. Et ça m'a donné envie, tu vois, de shaper ce genre de planche, tu vois, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Il y a eu, au niveau de l'évolution, tu vois, de mes planches, il y a eu... Bon, on va dire que ça a été les petits fish, les petits twins au début. Ensuite, j'ai commencé à surfer les hulls. Vers... je sais plus, ça devait être vers 2009, un truc comme ça. Et les hulls, en fait, un hull, c'est un design avec une carène très ronde et qui finit vers plat, et c'était une planche, c'est une planche très, on dirait un os de, enfin tu vois, c'est un, ça a une tête d'aigle et t'as un double step deck comme ça, et en fait tu la surfes au milieu, et tu, c'est généralement, ils avaient pris ça pour surfer beaucoup les vagues que tu surfais avec un pig aussi, et c'était à la même période. Et en fait tu te rends compte que le hull, vu que c'est une planche qui est assez instable, tu la surfes en fait quasiment comme un pig, quoi. Et j'ai compris ça sur le tard. Mais et j'ai adoré parce que tu le surfes comme un longboard, et c'est ce qui m'a aussi, ou ce que je savais pas à l'époque d'ailleurs, mais c'est ce qui m'a aussi poussé à aller chercher du volume et de la vitesse générée par la planche, tu vois. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à aller surfer des planches plus grandes, plus effilées, plus foilées, tu vois, que les fish ou les petits twins que je surfais avant. C'est ce qui m'a poussé vers le longboard. Et ça a été un déclic pour pas mal de gens de cette époque d'ailleurs, quand il y a eu un article, tu vois, sur les hulls dans un surfeur journal qui était hyper bien fait et qui donnait envie en fait de surfer ces boards. Et il y en a pas mal qui ont surfé les hulls à cette époque là.
C'est quoi cette époque là?
C'était un peu avant le 2010, tu vois. Mmh, je crois que cet article il est sorti en 2008-2009, un truc comme ça, je dirais.
Il y a une quinzaine d'années.
Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a eu, voilà, tout le processus des planches, tu vois. J'ai toutes les planches qui m'attiraient. Après, évidemment, je les ai faites. Ça a été du genre de speed shape en 9 pieds, tu vois. Ça a été... ça a été en fonction de ce que je surfais comme vague aussi, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup surfé Lafitte à un moment, donc j'ai commencé à agrandir les planches là-bas. Après, j'ai surfé beaucoup Parleux, donc évidemment, bah, Parleux... J'ai beaucoup aimé les gliders, tout ça, j'aime toujours d'ailleurs. Et voilà, des gliders, je suis allé au gun, des guns, après je suis redescendu, des guns plus étroits, tu vois. Il y a plein de modèles qui sont apparus à ce moment-là, tu vois, il y a le. Là derrière, t'as la Minou là, qui est un mélange entre. Une Takayama, tu vois, une Jacobs Takayama et un surfard de gâteau. La Ilou qui est venue après, c'est une planche plus pour Guettari, donc qui est effilée mais qui a quand même du volume et avec un petit squirtel et avec une dérive dure cette fois. avec plus de drive en fait, beaucoup plus d'accroche sur l'arrière, parce que la Minou c'est plus une planche, c'est comme un longboard. J'ai réduit la taille parce que moi je suis pas un nose rider et je trouvais que entre 8 et 9, 8 et demi, 8, 6 c'était super pour moi. J'ai commencé à faire ces Minou et après je suis passé sur l'Ailou, après les grandes planches, tu vois les, ça à droite c'est plus une planche. Un petit peu gun à la patte Keren, tu vois, très effilé. Enfin voilà quoi, il y a plein de planches que j'ai essayé.
Après,
ouais. Ouais, carrément. Ouais.
Toi à l'atelier, tu shape, mais tu glaces également ou tu fais que le shape?
Non, j'ai toujours tout fait en fait. Et j'ai toujours fait. J'ai pas toujours tout fait. J'ai quand même appris à tout faire. Et à un moment, en fait, à la fin de l'atelier, du premier atelier, il y a le Tristan de Fantastic Acid qui est, enfin non pardon à la fin du premier atelier la dernière année, en fait j'ai plusieurs glaceurs qui sont venus en fait à qui j'ai rendu service, parce que en fait c'est des gars qui revenaient de pas mal de trips de glace et ils n'avaient pas spécialement de pied-à-terre pour glacer. Et ça a commencé avec le Paul Lefebvre, voilà, Son of Cobra, qui est venu pendant quelques mois glacer à l'atelier. Donc il a commencé à nous glacer quelques planches en fait, et puis du coup on a vu évidemment une façon aussi professionnelle de glacer, parce que c'est un peu des machines les gars, quoi, tu vois, les gars.
Toi comme... tu glaçais pas du tout à
ce si je glaçais tout déjà,
ouais, d'accord,
mais bien sûr j'avais beaucoup appris solo, j'avais appris en voyant quelques mecs glacer, mais je manquais en fait de références. Et ça a commencé par Paul, donc il est venu quelques temps. Et en fait, après, il y a Tristan Moss qui est venu, qui a commencé à venir parce qu'il est venu s'installer ici. Avant, il était dans les Landes. Et lui, au début, il shapait et il glaçait aussi pour Blend. Et il a commencé à venir glacer des planches dans le Pays Basque. Il a recommencé parce qu'il l'avait déjà fait avant, évidemment. Et en fait, on a commencé à collaborer tous les deux, parce que quand il est venu... au début, il est venu glacer dans cet atelier, et quand il y a eu la transition d'atelier, lui, il était parti en voyage, machin, et puis à un moment donné, il est revenu glacer pendant quasiment 2 ans, je crois, dans le nouvel atelier. Donc, il glaçait toutes nos planches, en fait, avec Thibaut. Et les planches de Thibaut, les miennes, et puis des fois celles de Pétale, je me souviens, il glaçait ça. Et puis, évidemment, de le voir glacer, ça nous a appris pas mal de choses, parce que lui, pareil, tu vois, Tristan, il fait des planches magnifiques, et puis il a beaucoup de pratique, parce qu'il a beaucoup voyagé dans les ateliers de glace, tout ça. Donc ça nous a vachement appris le glace. Après, le shape, on a appris à force, quoi, à force de faire, tu vois, force de pratique. Et puis d'échange aussi, évidemment, avec les surfeurs, avec... tu vois, parce que d'un modèle, tu commences d'un modèle, et puis tu te rends compte, tu le fais s'il y a 2-3 personnes, et puis à 2-3 bons surfeurs, ils disent « Ah putain, là, les rails, ça va pas, le rocker est cool, mais les rails, c'est pas bon », ou il va te dire « Ouais, faut rajouter un peu le vie, ou faut remonter le vie », enfin, tu vois, c'est toujours des échanges avec les surfeurs qui font évoluer les designs aussi, tout ça.
Donc, oui, tu le dégrossis au fur et à mesure.
Ouais, et puis d'une version 1, 2, tu vois, des fois, la première version est bonne, des fois, il en faut 3-4, en fait. Donc peut-être des fois plus aussi, tu vois. Puis en faisant que voilà quoi, qu'après les modèles ils se développent, quoi.
Et aujourd'hui tu continues à glacer à l'atelier, j'ai vu un peu sur internet que bossais encore avec Tristan notamment.
Alors donc moi je bosse plus avec Tristan. Ce qui s'est passé, c'est que lui il s'est tellement développé et puis il voulait se développer, il a pris un autre atelier qui est pas très loin d'ailleurs, à côté de chez Mainvielle. Et à partir de ce moment-là, lui, il a été très très demandé, évidemment, parce que c'était un très bon glaceur. Et c'était un peu compliqué de faire des planches. C'est beaucoup, tu vois, avec le Covid, tout ça, ça a été assez difficile en fait de faire glacer les planches d'une manière générale. Hein. Les mecs, ils avaient vite 2-3 mois d'attente. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à travailler avec Panther. Et du coup, il m'a glacé les planches pendant quasiment 1 an. Presque même, peut-être même plus, peut-être 2 ans, je sais pas. Et ensuite, j'ai décidé de reglacer les planches à l'atelier. Parce que financièrement, c'était plus intéressant. Et puis, moi, j'avais envie de reglacer aussi. Et puis, voilà, quoi, j'avais envie de vraiment faire mon atelier, le refaire, on va dire, l'atelier vraiment où on fait tout dedans, quoi, tu vois.
Ouais.
Les plans, le shape, du shape, au polish, quoi, tu vois.
Donc là, à l'heure actuelle, tu refais tout à
Je
l'atelier.
refais tout à l'atelier, ouais. Il y a toutes les salles opérationnelles.
Et tu arrives à conserver le rythme?
Ouais, bah, ça fait plus de travail de faire de glacer les planches, mais après moi je bon donc je shape, je fais la strate et ensuite je forme un pote, tu vois, pour faire la tu vois les hot coats, les strat clear, les boîtiers, les trucs comme ça. Et j'ai un gars qui est aussi un jeune là qui vient faire les polish et les poncer.
Ouais.
Donc tu vois, il y a pas mal de j'ai quand même de l'aide quoi, je fais pas tout seul quoi. Parce que j'ai pas envie, tu vois, le ponçage, c'est quelque chose, c'est. Tu sais, le glace, c'est assez technique, c'est un truc de répétition, quoi. Tu peux avoir tellement de petites merdes, en fait, que en fait, c'est l'anticipation de toutes ces petites merdes qui fait que t'es un bon glaceur, en fait. C'est parce que tu t'es toujours. Je sais pas, l'exemple, je sais pas, moi, quand tu tapes une planche bah, faut le faire. Faut la glacer directement quand tu la tapes. Parce que si tu la tapes le soir pour le lendemain, bah le scotch il va se décoller. Tu vois. C'est con, mais bon, ça t'arrive toujours une fois ou deux, tu vois. Et c'est une couille qui t'arrive et que c'est de l'empirisme, quoi. C'est à force, c'est parce que ça t'arrive que tu le fais plus.
Ouais.
Et c'est que ça le glace, tu vois. Tu sais que, par exemple, quand tu fais une teinte, tu sais, tu fais des tests de teinte sur un petit bout de mousse avec ta strate, quand tu fais des couleurs. Mais tu sais que. Quand tu fais une teinte, il faut toujours que ça te paraisse désaturé, par exemple. Parce que, évidemment, la teinte, tu la vois sur un petit bout de mousse, mais sur une planche qui fait 10 pieds, bah, évidemment, la couleur, elle est beaucoup plus présente, visuellement, tu vois. Donc, une couleur qui te paraît saturée, tu vois, sur ton essai, eh bien, la couleur, elle va paraître beaucoup plus saturée sur ton longboard, tu vois, parce que, évidemment, tu as une surface beaucoup plus importante. Donc, faut toujours avoir un jugement. En dessous de ce que tu penses, tu vois. Si tu veux une couleur soft, par exemple, tu vois, admettons. Ça, c'est des trucs que tu apprends en le faisant. Et puis, moi, j'ai appris le glace, ouais, pas mal avec Tristan, en faisant aussi, mais quand même, les techniques de glace, il m'a beaucoup appris là-dessus. Et voilà, quoi.
Ok. Et du coup, sur la conception justement plus esthétique des planches, parce que
Ouais.
tu as quand même des planches assez colorées, assez travaillées. Enfin,
Ouais.
j'imagine que tu fais aussi des planches clear
Ouais, bien
simples,
sûr.
mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de tes planches très travaillées esthétiquement.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait. C'est venu petit à petit en apprenant glace ou...
Ouais, non, j'ai toujours aimé travailler les couleurs à la résine, quoi, tu vois, depuis longtemps. J'ai commencé par intégrer des tissus. Dans les planches, des tissus de récup, des tissus que je récupère à Emmaüs, tu vois, des foulards, beaucoup de foulards. Parce que c'est très fin, tu sais, des foulards de soie ou des foulards de coton, mais hyper fin, tu vois, donc ça s'intègre bien, ça prend pas de poids, et puis ça te fait une déco assez simple, ça peut être joli aussi, tu vois. Et puis traditionnellement, tu vois, à Hawaï, ils mettaient aussi beaucoup, tu vois, les tissus des chemises hawaïennes, tu vois, comme celle-ci, dans des patchs, tu vois. Et j'ai commencé par ça, et puis après j'ai commencé à dessiner sur les, enfin faire des panels, de couleurs, tu vois. Après j'ai intégré des fleurs, plein de trucs, des médaillons, des. Puis après j'ai commencé à triper. J'aime beaucoup moi les papiers découpés de Matisse, de Henri Matisse. Et j'adore la technique en fait de le faire en direct, parce que lui il peignait en découpant, on va dire. Avec le ciseau, il découpait des pièces de carton, il faisait des formes, des contreformes, et en fait, tu peux faire la même chose avec le glace en tapant, et puis tu fais tes formes au cutter, en fait, tu découpes sur la planche, et en fait, tu vois, ça te fait, et après, tu les remplis en résine, enfin, moi, ce que j'ai fait du coup, tu remplis en résine, et tu as plein de formes aléatoires qui sont, c'est en fonction évidemment de ta sensibilité à toi, hein, mais. Il y a des choses que tu peux faire qui sont hyper cool. Et je me suis bien plongé là-dedans, j'en ai fait pas mal à un moment. Et j'en fais toujours d'ailleurs. Et j'adore le faire. Enfin, tu vois, des petits personnages, des formes des fois ça avait des formes d'algues, des soleils, des étoiles, je sais pas, voilà, plein de trucs comme ça.
Mais c'est vraiment sur ton inspiration du moment ou tu as des commandes parfois
très précises? Non,
c'est
mon inspiration. Ouais. Généralement, les gens, ils se basent sur ce que moi je fais. Ils sont attirés par ce que tu fais de toute façon, les gens. Ce qui est normal et ce que j'ai compris avec le chep, c'est que les gens, ils sont attirés par les planches, par déjà un design, mais aussi par la déco. Et c'est pas négligeable, même si une planche clear, s'il n'y a rien de plus efficace qu'une planche clear. Quand même, quand tu as une belle planche, une belle déco, une belle couleur, enfin, tu vois, évidemment, la planche, elle est belle, quoi, tu as envie de la sortir, tu la vois, ça te plaît, tu vois, il y a un truc cool, quoi, c'est
Tu
vrai.
vois moins le vieillissement aussi.
Tu vois moins le vieillissement de la planche, c'est sûr. Mais ouais, c'est pas négligeable, puis moi, j'aime bien le faire, en fait, c'est cool. Tu vois, comme les planches, là, les Ilou, par exemple, j'ai ce modèle pour Guettari que je me suis fait, c'est ma planche de Guette, quoi, la Ilou. Et j'adore la faire un peu comme les vieilles guitares, tu vois. Souvent, je prends des références couleurs, tu vois, des Stratocaster, des vieilles Strat, des vieilles Gibson, des trucs comme ça, tu vois. Là, celle que j'ai là-bas, elle est marron, orange sur le marron sur le dessous, orange sur le dessus, le pinline, machin et tout. Ça fait un peu la couleur du Sunburst des guitares Gibson, tu vois, en Sunburst qui était. En fait, traditionnellement, ils cramaient un peu les bords, tu vois, pour teinter le bois. Et après, ça a été en peinture, évidemment, ils faisaient comme ça. Mais voilà, quoi. T'as plein de trucs différents. Puis après, j'ai relaté aussi les pins, beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, relater des pins avec des bois d'ici,
Ah oui.
des bois du coin. Il y en a une, d'ailleurs, qui est au California Kitchen, si tu veux aller voir un jour. Elle y est
D'accord.
sur mon Insta aussi. J'avais fait une énorme latte en 11 pieds avec un frêne olivier qui est un bois très dense, donc j'ai dû tout évider, tu vois. Ça a été tout un process de faire ça. Ça a
T'as
été hyper
évidé la
cool.
latte
Ouais.
pour avant de l'intégrer, parce que
Bah, en fait,
sinon c'était trop lourd,
je
quoi.
l'ai intégré d'abord. J'ai coupé le plein, j'ai enlevé l'ancienne latte. J'ai recollé avec ce morceau de bois qu'on avait choisi avec mon pote Quentin, là, Quentin de Lyon, qui est un ébéniste qui est super talentueux aussi. Et en fait, j'ai intégré le bois, j'ai shapé la board, pré-shapé la board, on va dire, jusqu'au rail. Avant de faire les rails, j'ai décollé en fait la mousse de la latte. Et j'ai vidé toute la latte en fait. Je l'ai re-rempli avec de la mousse, pour pas qu'il y ait de vide d'air, tu vois, pas que ça gonfle et que ça se décolle. Et ensuite, j'ai refiné le pin, glacé, machin et tout. Donc c'est un process cool, c'est bien. Puis d'avoir un beau bois, un bois différent, tu vois, qu'un cèdre ou un redwood, tu vois, que tu peux avoir dans les pins de mousse, tu vois.
Et puis même techniquement, ça va vachement influencer
La planche, ouais.
la planche.
Ah ouais, la planche là, celle-ci en particulier, elle est raide. Mais c'est trop bien parce que c'est ce que je voulais, tu vois, je voulais une planche pour surfer les conditions, tu vois, un 2 mètres, un peu onshore à Guettari, tu vois, donc avec des clapots. La planche, tu passes,
Elle bouge pas,
ah
quoi.
non, elle bouge pas. Le clapot, elle casse en deux. Il casse, le truc, c'est fini. Tu vois, la planche, elle passe, capte rien. C'est trop bien. Par contre, c'est pas bien sur le parking, mais parce qu'il faut la porter. Elle est quand même toujours lourde, quoi.
Elle
Tu vois, j'ai
pèse,
gagné en
ouais.
évident,
Déjà, c'est un 11 pieds à la base,
bah
c'est
oui,
déjà
déjà,
un
c'est
peu lourd.
lourd, mais elle est d'autant plus. Enfin, ça va, tu vois, mais elle est quand même plus lourde qu'un 11 pieds traditionnel. Et là, c'est pour ça que tu comprends pourquoi les gens, ils ont utilisé, enfin pourquoi à l'origine, ils ont utilisé du balsa ou du cèdre, parce que c'est des bois légers.
Ouais.
Et c'est pour ça que le cèdre, c'est top, c'est des super propriétés pour les planches de surf. C'est à la fois léger et flex, mais assez sec, tu vois. Donc t'as des bons retours, tu sais, de flex, c'est cool.
Et tu travailles qu'en polyuréthane, polyester
Ouais,
classique?
principalement pour l'instant. C'est ce qui se fait depuis 70 ans et qui pour l'instant. C'est le mieux, même si écologiquement ça ne l'est pas, qu'il y a du déchet. Mais là où je me console d'une certaine manière, c'est que je fais pas du consommable. C'est-à-dire que je fais une planche. Déjà, je choisis bien mes pins. J'ai le moins de, tu vois, de déchets possible, tu vois, enfin de pertes possible quand je fais une planche. Et puis je fais des planches quand même relativement durables. J'ai que des bons produits. Les planches, c'est des US blancs, tu vois, les pins, ils ont une densité un peu supérieure quand même. à la moyenne. Donc c'est des pains solides, c'est des lattages que je choisis, tu vois, c'est moi qui choisis des lattages en fonction des modèles, des trois lattes, des machins, de l'épaisseur des lattes, tout ça. C'est une planche que tu vas garder quand même, tu vois, donc c'est pas une planche que, pour moi, un longboard, c'est pas un shortboard, tu vois, tu vas le garder des années, quoi, tu vois. Moi, je vois encore aujourd'hui, même si les produits étaient meilleurs avant, t'as des pigs qui ont, par exemple, pour reprendre cet exemple, qui ont 60 ans et qui sont surfables encore.
Ouais.
C'est lourd, certes, ouais. Vieux, certes, mais surfable, quoi. Enfin, et le design, il est là, quoi, en fait.
Et puis l'avantage, c'est que parfois le poids sur un longboard est pas gênant ou
non. intéressant. Quand il est dans l'eau, c'est bon. le problème, c'est surtout quand il est hors de l'eau, quoi, parce que c'est vrai que. Planche de 15 kg, de 10 pieds, bah, forcément, il y a moyen de se faire une bonne hernie si tu la surfes pendant 10 ans, quoi. Ouais. Ou même moins, d'ailleurs.
Et au niveau de la strap, c'est pareil, tu lui fais des tissus un peu plus épais ou tu restes très
bah,
léger
Vu que le pain, moi j'ai plus en ce moment la philosophie d'avoir le pain dense et un glace normal, en fait. Okay. Ça fait que le poids, il vient... C'est le Sean Tully qui m'avait appris ça, notamment sur le Nose Rider. C'est un surfeur californien. Et en fait, il dit que c'est mieux d'avoir en fait un poids qui est qui vient du cœur de la planche plutôt d'un poids qui vient de l'extérieur. Tu vois, c'est mieux en gros d'avoir un pain dense, glacé normal, tu vois, plutôt que d'avoir un pain normal, tu vois, un pain léger, tu vois, mais surglacé. Parce qu'en fait, le poids, il est plus équilibré et plus réparti dans toute la planche, ce qui paraît logique. Donc la planche, elle est plus saine, tu vois, au mouvement. Ouais.
Plus d'inertie en quelque sorte.
Plus d'inertie aussi, et une inertie. Et puis encore une fois, le poids, il est réparti dans la planche. Ce qui est, ça fait des planches plus saines, en fait, à la glisse. Et ça, c'est un truc que j'ai appris des planches de Carson aussi, qui fait beaucoup avec des hautes densités. Des fois des petits lattages, mais des hautes densités, là c'en est une, là, juste que tu vois. Là. Ouais. Tu vois par exemple, là c'est une 9-4, c'est un pain haute densité, et elle est glacée, je crois, juste 6-6 ou 6 et 6-4 dessus. Et la planche, elle a un poids, mais par contre, je sais pas, le design avec le combo du. Bah évidemment, tu sais, lui c'est quand même une légende, hein, du design, des rails ronds, de la haute densité et. La planche, elle est magique, quoi. Elle marche grave. Alors que c'est un pain marron, tu vois, genre, c'est limite du balsa HP, quoi. Mais voilà, quoi. Le poids vient de l'intérieur de la planche. La planche, c'est important.
Ouais, ça réagit pas pareil. Quoi.
Ouais, non, ça réagit pas du tout pareil.
Donc en ce moment, c'est ce que tu fais là.
Ouais, depuis quelques temps. Hein, après.
Même pour tes... Tu fais des guns un peu, peut-être?
Ouais, alors ça dépend. Tu vois, la Ilou, moi, j'aime bien la faire avec une densité assez légère. Parce que c'est une planche qui est épaisse et qui est vachement au-dessus de l'eau. Et il faut que ça rame et il faut qu'il y ait vachement de... Il y a besoin d'un peu d'inertie, évidemment, à Guétari, parce que la vague, c'est une grosse masse d'eau qui avance. Mais... tu vois, déjà, t'as une 8... Mais il faut une planche qui est réactive aussi, tu vois, c'est ça. Et donc, si tu as une planche trop lourde, bah, c'est cool, mais en même temps, ça t'implique vraiment un certain surf, tu vois. Et là, avec la Ilou, tu as envie de bouger en même temps, d'avoir un bon volume. Mm-hmm. Et là, tu vois, un pain léger, ça se tient, quoi, tu vois. Parce qu'il faut. Les singles, quand ils sont un peu plus courts, c'est bien, moi je trouve qu'ils soient plus légers, quoi. Parce que c'est bien, il a plus de rebond au bottom, il a plus de. C'est cool.
En termes de commercialisation, on va dire, tu fais que de la vente à la commande ou tu vends dans des magasins?
Ouais, que à la commande, ouais. C'est principalement à la commande. Après, il y a des planches chez Deus quand même. Et c'est presque le seul shop qui m'a fait confiance aussi au début. C'est hallucinant. C'est grâce à un pote qui ride les planches depuis longtemps, Simon Rota. Qui est un super surfeur et un bon ami qui a bossé là-bas. Et en fait, à un moment, Deus, ils ont eu une volonté d'avoir des shapers locaux, tu vois, et sur mesure. Et, parce que ça allait aussi avec leur démarche, tu vois, comme avec la moto, tout ça. C'est vraiment, ça s'appelle Deus Custom, tu vois. Et en fait, Simon, il nous a introduit avec Tristan là-bas. Et on a toujours les planches là-bas, tu vois, c'est resté depuis lors, depuis 4-5 ans. Donc c'est top. Et il y a quelques planches en essai chez Colors, à Biarritz. Et j'ai un copain aussi qui a des planches dans le Médoc, au Pin Sec.
Ok.
Ouais, qui a quelques planches là-bas. Donc voilà.
Mais sinon, c'est surtout de la commande,
Mais
quoi.
si, ouais, c'est principalement de la commande. Mais les shops, j'en fais peu. Parce que j'aime bien en fait avoir les gens qui viennent à l'atelier. J'aime bien échanger avec les gens, j'aime bien les rencontrer. J'aime bien
Faire
faire
du
des planches
sur-mesure,
pour
quoi.
eux. Après, ouais, faire du sur-mesure, j'adore ça. Et puis j'aime pas trop en fait. Enfin, c'est vrai que ça fait des. En soi, pour le business, c'est bien de faire des planches de shop parce que le mec, il va te commander 10 planches et ça t'assure 10 planches, tu vois. Mais je sais pas pour qui je chope en fait. J'aime bien donner une intention dans une planche et savoir à qui je chope. Et il y a quelque chose dans les planches qui vient de là. Il y a des petits trucs. Tu donnes quelque chose à une borne, moi je trouve. C'est pas. Tu peux pas. C'est incomparable, je trouve, une planche qui est faite main avec une planche qui est faite en machine, tu vois, quelque chose comme ça. Moi personnellement, je trouve que il y a quelque chose que tu apportes à quelqu'un. Voilà quoi, en faisant la planche sur mesure.
Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais tu n'utilises pas du tout les machines.
Non, non, je fais
Non.
tout à la main. Ouais. J'ai toujours voulu le faire à la main et puis j'ai eu plein d'occasions. Hein, c'est vrai que des fois tu te poses la question, tu vois, scanner des modèles
Ouais.
quand ils sont bons.
Ce que font beaucoup de shippers, ouais.
Ouais, et d'ailleurs
Qui
j'ai été
finissent par
surpris.
scanner un modèle qui marche bien,
Ouais,
pour leur produire.
c'est pas con, hein, franchement. Mais parce que tu le gardes au moins, tu vois, parce que c'est vrai que
Ouais.
tu peux faire un modèle à un moment T, tu vois, dans ta carrière, on va dire, de shaper, surfeur, que tu referas plus 3 ans après ou 5 ans après.
Ouais,
Donc
pour
des
la
fois, c'est bien,
reproduire à
ouais,
l'identique, ouais.
quand tu sais que la planche, elle va être bonne et que tu le sens bien, et que tu te dis, vas-y, je la scanne, je l'ai, tu vois. Mais ouais, mais moi, j'aime bien faire à la main parce que juste le fait, en fait, de faire. Ça t'apprend, tu vois, à shaper quoi. À shaper d'autres choses. Et quand tu shapes, en fait, tu penses à d'autres modèles, en fait. Il y a plein de choses qui te viennent en tête. Et puis les gens qui viennent commander, des fois, ils ont des idées, tu vois. Et des fois, leurs idées avec tes idées, ben, ça crée, tu vois, ça crée un truc, en fait.
Ouais.
Et tu vois, il y a des choses que tu aurais. Des fois, tu y as pensé, tu vois, mais tu l'as jamais fait. Et des fois, c'est un peu comme tout quoi. Plus tu t'appelles les choses, au bout d'un moment elles vont arriver, tu vois. Si t'es attiré par, je sais pas, les guns de Pat Curran, il y a un moment, il y a bien un mec qui va tu vois, qui va te parler de guns et tu vas lui parler de Pat Curran et puis machin, je sais pas, tu vois. Et
Ouais.
puis tu vas finir par faire une board comme ça. Et en fait, il y a forcément des choses qui arrivent comme ça quoi. Et ça c'est cool, je trouve.
Et tu n'utilises pas non plus l'ordinateur juste pour dessiner?
Non,
Tu fais
non.
tout avec tes gabarits et
Ouais.
entièrement à la
Ouais.
main.
Au début, on avait fait ça avec Thibaut. On faisait les templates, en fait, sur l'ordi. Et maintenant, on a arrêté de le faire. Parce qu'une fois, au bout d'un moment, en fait, parce que tous les shapers, on le voit, hein, tu reconnais, par exemple, l'outline du nose ou du tail de Lance Carson ou de Skip Fry. Les mecs, ils n'ont pas 50 000 templates, en fait, tu vois. Mais
Ouais.
moi, je me rends compte, là, j'ai mon template de Minou. C'est le même que celui de la Gala. Le nose de la Minou, c'est le tail d'un des nose riders, tu vois, un round pin. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de trucs que tu utilises tout le temps en fait. Après, il y a des templates que, bah, évidemment, que tu travailles
C'est
après, que
des
tu changes.
combinaisons de courbes que
Ouais.
une fois que tu sais comment
Ouais.
tu veux les faire, t'as plus besoin de l'ordi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et puis le fait de s'enlever ce truc de l'ordi je trouve que ça te fait faire aussi les choses différemment. Et ça te rend plus créatif, quoi. Tu vois, par exemple, mon mini Simon, c'est le template de mon pig. Et alors que, tu vois, c'est une 10 pieds pour faire une 5 pieds, en fait, tu vois.
Ouais.
Mais ce squash, le tail un peu squash comme ça, avec le nose rond mais un petit peu pointu, bah, ça me fait mon mini Simon, en fait. Et c'est top, c'est parfait, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Et
Ouais,
tous les
tu
shapers,
te
c'est
sens
pareil.
plus
Ouais.
libre en tout cas dans ta conception sans ordinateur, quoi.
Bah ben ouais, parce que t'as pas de limite avec l'ordi, tu vois. Là, quand j'ai mes templates dans la salle de shape, ben, j'en ai pas à 50 non plus, hein, tu vois. Donc, et même si j'en avais 50, Ben, en fait, ce serait que 50 choses à mélanger dans ma tête, tu vois.
Ouais.
Et c'est pas énorme, en fait. Moi, l'ordi, je le vois, je me perds trop un peu dans l'ordi, moi, personnellement. Parce que c'est tellement facile de passer d'un truc à un autre. Et puis même, j'ai jamais travaillé les planches sur, je sais pas, 3D, shape 3D, ou je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, un truc comme ça. Ça m'intéresse, je sais pas, ça m'a jamais dit.
En même temps, tu passais déjà peut-être beaucoup de temps devant l'ordi avec ton autre job.
Aussi, ouais.
T'avais peut-être pas envie de
C'est ouais,
recommencer le soir,
c'est
quoi.
exactement ça, ouais.
Donc.
Mais ouais, parce que d'une. Après, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été dans des chambres noires, quoi. La photo, j'ai commencé, c'était la chambre noire. Vraiment, c'était ça, c'est une chambre noire, dans le noir. T'es dans le noir quand tu développes les photos. Le montage, après, j'ai fait une formation de monteur. J'étais dans une chambre noire parce que le meilleur moyen de monter des films, c'est pareil, c'est d'être dans le noir. Et là, je finis dans une salle de chef, là, je suis dans le noir, quoi, tu vois, c'est drôle, quoi.
Tu n'en sortiras jamais.
Ouais. Mais bon, du coup, j'avais pas envie d'être dans un écran, devant un écran, comme tu dis. J'avais vraiment besoin de faire un truc avec mes mains, quoi. Quand je suis sorti du montage, j'avais besoin de ça.
Okay. Si on parle, on a un peu parlé quand même de ton style de shape et des planches que tu
Ouais.
fais. Après, tout à l'heure, on ira voir tes modèles.
Ouais.
En termes, toi, d'influence de d'autres shapers ou d'autres planches en particulier, il y a des choses qui t'ont
Ouais.
influencé, tout simplement.
Ouais, bien sûr. Bah. Qui m'a beaucoup influencé. Il y en a eu pas mal en fait. Il y en a pas mal. Il y a quand même beaucoup les shapers californiens. Tu vois, évidemment. Hein. Qui. Alors, je sais pas comment dire ça. Je vais essayer de le faire de manière chronologique. Tu as eu. Au départ, il y a Daniel qui m'a inspiré. Parce qu'il avait énormément de planches déjà, et puis parce que c'est lui qui m'avait ouvert les portes pour faire un film mais de shape que j'ai pas fait d'ailleurs. Et lui, en fait, pour moi, tous les gars, les gens, ils surfaient pour eux à l'époque. Les surfeurs et tous les surfeurs en mode traditionnel. Clovis surfait pour lui. T'avais toutes les filles aussi de la côte, là où j'habitais aussi, qui surfaient les planches de Daniel, tout ça. Et c'est vraiment, c'était le shaper de planches traditionnelles. Donc les planches, j'ai commencé à les découvrir avec lui. Et après, y a eu les planches que Clovis a eu beaucoup. Donc il a après travaillé beaucoup avec Maurus. Et donc j'ai surfé aussi les planches de Maurus, ce qui m'ont inspiré. Et ensuite, il y a eu pas mal de planches. Les Hulls m'ont inspiré. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu les planches. Il y a eu une planche que j'ai eue de Gato et Roy qui m'a inspiré pour la Minou. Il y a eu. Et puis aujourd'hui, c'est différent. C'est plus des planches. Tu vois, Lance Carson, ça m'a beaucoup influencé dans les longboards parce qu'il a une vision. Il fait des planches qui marchent, quoi. Enfin, il est peu connu, mais il fait des planches qui marchent grave. Et j'adore sa façon de shaper les courbes, les volumes, tout ça. Je la regarde en parlant, tu vois, mais elle est là-bas, c'est la jaune. Et il y a une sorte d'harmonie dans ce qu'il fait. Il a compris des trucs dans le shape qui me touche. Et quand j'ai vu par exemple cette planche, je l'ai achetée, hein, neuve et tout. Tu vois, pour un shaper, acheter une planche neuve, c'est rare quand même, tu vois, parce que tu sais ce que ça coûte, et puis tu la vois, tu dis, ouais, je peux peut-être la faire et tout. Mais honnêtement, quand j'ai vu cette board, je me suis dit, putain, je rêverais à réussir à faire ça un jour, tu vois. Et je l'ai surfé à fond et tout, et j'adore cette planche. Par respect, j'ai jamais osé mesurer la board,
C'est vrai?
ouais. Ni reprendre le template.
C'est sacré un peu, quoi.
Ouais, de la même manière que la planche d'Eric aussi, qui a là, qui m'avait fait une réplique d'une Takayama. Jamais j'ai repris les côtes, jamais j'ai repris l'outline. Je m'en suis inspiré, mais jamais j'aurais envie. Tu
Tu
vois,
l'as
je
pas
respecte.
répliqué pour autant.
Ouais, c'est des trucs qui m'ont tellement touché que je préfère m'en inspirer plutôt que de copier, tu vois. Alors, tu vois, c'est des modèles qui m'ont inspiré pour faire d'autres planches, en fait. Mais voilà, quoi, c'est ça. En ce moment, c'est ça. Après, il y a Skip Fry qui m'a beaucoup inspiré parce que j'adore les gliders, les planches énormes. Et cette glisse, tu vois, que ça implique. J'aime beaucoup aussi. Après, le Curren, j'ai beaucoup aimé aussi le Pat Curren. C'est des profils et des shapers qui sont vraiment, ils vivaient pour ça et tu vois, ils faisaient aucune concession. C'est quand même comme le, que ce soit le Carson, le Curren, tous ces trucs-là, c'est des gars. Les gars, ils lâchaient rien, quoi. C'est ouf. Et bref, je vais pas développer sur eux parce que je suis pas la bonne personne pour ça, mais les boards de Curren, c'est quand même les guns par excellence. Et c'est des outlines qui n'ont pas d'âge, quoi, tu vois. Et
c'est ouais, les courbes. Intemporel.
Ouais, c'est intemporel. Et ces courbes de l'époque, tu vois, c'est des courbes que tu retrouves aujourd'hui, que tu retrouves partout dans les planches, dans les longboards. Aujourd'hui, en fait, c'est l'héritage qu'ils ont laissé, c'est ce qu'on surfe aujourd'hui, en fait. Et s'inspirer d'eux, c'est tout à fait légitime, tu vois. Mmh. Comme ils sont inspirés d'autres choses aussi ouais, à leur époque. Quoi.
Ouais,
tu
sais,
c'est, tout est une inspiration réinterprétée. C'est comme la musique, hein. Le blues, tu vois, c'est simple, hein, mais comme disait Hendrix, hard to. Non, easy to play, hard to feel, quoi. C'est dur, c'est facile à jouer, mais dur à ressentir. Et c'est vrai, c'est pareil pour une planche, tu vois. Tu peux la copier facilement, mais réussir à capter exactement ce qui fait la beauté et l'identité de la planche et l'âme de la planche, quoi, tu vois. J'ai adoré la dernière fois, il y a un mec qui est venu à l'atelier. Et il connaissait rien, il est venu pour acheter le camion de ma copine. Et en fait, il regarde les planches, tu vois, il regardait ça avec, tu sais, il avait jamais vu des grandes planches comme ça. Il y avait les grands pains de mousse et il me regarde, il me fait, il y a toujours une âme comme ça dans la planche, enfin, dans les pains de mousse. Et en fait, il le parle souvent dans les pièces centrales des, tu vois, maîtresses. Ils appellent ça l'âme, tu vois, dans la menuiserie, dans les trucs comme ça.
Ouais.
Et c'est tellement ça, en fait. Et c'était cool, quoi, d'entendre ça de quelqu'un qui connaît rien
pas,
au surf.
Tu l'as pas du tout entendu de la manière dont il l'a dit.
Ah ouais, non, ouais, mais parce que vraiment, tu lui donnes un truc quand même aux planches,
quand
tu les chèpes, quand tu les. Puis, enfin, voilà, évidemment, quand tu les surfes, hein, mais il y a quand même quelque chose. Enfin, moi, je suis persuadé que tu apportes quelque chose à quelqu'un.
Avec, on le ressent peut-être d'autant plus sur les planches dites alternatives qui sont pas forcément alternatives mais traditionnelles parce qu'on
Tout simplement parce que il y en a encore beaucoup des longboards qui sont shapés à la main et enfin beaucoup
et qui sont intemporels
c'est pas vrai mais il y en a beaucoup qui sont je crois que Andreini la dernière fois j'ai écouté un podcast sur lui là et il disait que c'était 6% je crois de la production mondiale qui était faite à la main.
C'est pas beaucoup.
Sachant que évidemment il y a une énorme la production je pense que les 6%, ça doit être facile 50% des longboards tu vois, qui sont faits à la main, par exemple, je sais pas. Mmh. Ou des planches vraiment traditionnelles. Tu vois. Mais c'est 94% autres, évidemment, hein, c'est les planches chinoises, les torques, les shortboards, les machins, qui sont tout. Enfin, tout ça, c'est fait en machine. Quoi. Mmh. Voilà.
Mais tu surfes encore ces planches d'autres shapers ou tu
Non, si, j'adore. J'adore les planches des autres shapers parce que tu découvres autre chose, une autre perception, une autre. Mmh. Et puis c'est trop bien en fait de. C'est tellement rafraîchissant de surfer autre chose que ces planches en fait. Ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre. C'est comme découvrir un artiste musical et puis rouiller des fois, tu vois, ces différentes époques, tu vois, de musique musicale, tu sais, d'inspiration, tu sais, les mecs. Mmh. Voilà quoi, ils ont plein d'époques différentes quoi. Sur 40 ans de composition de musique, tu vois, ils ont jamais fait la même chose quoi.
Donc, tu et dans le chef, c'est pareil. Acheter ou surfer des planches, pas que des classiques, aussi d'autres shapers, des potes ou
Des fois, c'est sur le moment quoi. En fait,
tu
vas avoir des planches que je vais voir, tu vois, ou des vieilles boards. J'aime bien les planches projet aussi, comme ils disent là aux États-Unis. Les planches qui sont défoncées, tu vois, qui sont des fossiles, tu vois, mais que tu répares, tu remets à l'eau et tout. C'est trop cool, quoi. Ouais. Une planche, elle a 50 ans, tu la refous dans l'eau, le mec qui l'a chépé, il est mort. Enfin, tu vois, c'est ouf, quoi.
Il y a une transmission un peu.
Ouais, il y a quand même une transmission à travers ça, quoi. C'est dingue. Et on a encore la chance, d'ailleurs, d'avoir des planches de l'âge d'or, tu vois, du longboard, qui sont là. Parce que tu sais pas, tu sais, dans 100 ans, je sais pas, ces planches, elles existeront plus, en fait. Et même là, aujourd'hui, tu vois, les gens, les mecs...
Bah, où elles seront sous vitrine, et on les surfera peut-être plus, quoi.
Ouais, un mec comme Carson, par exemple, si on reprend cet exemple-là, le mec, il a commencé à surfer avec les pigs. Et il a un modèle de pig qui fait comme les planches qu'il, avec lesquelles il a commencé à surfer. Un truc énorme que les gens, quand les gens ils voient ça aujourd'hui, ils sont là. Enfin, tu sais, même moi, quand je la vois, je fais les gros yeux. Je suis ouf. Et lui, il te le dit, il te le décrit. Le truc, il te dit, ça, c'est la, le pig, les pigs qu'on surfait quand j'avais 15 ans ou 12 ans, je sais pas, ouais. À Malibu. Et voilà. Enfin, c'est, et ces shapers, ils ont grandi avec ça, quoi, tu vois. Et ça, c'est incroyable.
Tu veux nous parler un peu alors de, des planches, dans quel ordre tu veux procéder? Là, c'est tes planches à toi?
Tout ça, c'est mes boards, ouais. Mais tu vois, ce que je te disais, cet outline là, c'est celui-ci.
Ça, c'est ton pig?
Ça, c'est mon pig, ça, c'est le modèle de pig. Et donc, assez traditionnel, c'est un mélange entre un pig et un Malibu chip. Et en fait, donc c'est, ça veut dire que il y a quand même cet outline qui est assez parallèle et le tail assez large. Et en fait, tu peux voir qu'il y a une sorte de squash tail assez large à l'arrière, avec le diffin en bois, tout ça. Et regarde, je te montre. On voit bien, tu le vois bien comme ça. Et donc là, tu vois ces rails ronds, tu vois le truc un peu classique du pig, tu vois des rails bien pleins qui tient bien dans la main, quoi.
Ouais.
Planche très stable, très, enfin, tu prends bien de la vitesse et tout. Là, c'est glacé en volane, tu vois, c'est un peu vert. Justement pour avoir pas mal de poids sur l'inertie dans la board.
Ah oui, et un peu d'épaisseur, mais il est assez pincé en même temps, non?
Ça va, ouais, il est pincé sur la fin en fait.
Ouais. Oui, il s'affine au bout, ouais.
Ouais. Et tu vois ce tail, ce squash tail avec ce nose un petit peu pointu, bah, c'est ce que tu retrouves dans le mini Simon, tu vois, que j'ai utilisé. C'est les mêmes outlines. C'est vraiment le même, quoi.
Et par contre, j'imagine que le travail des rockers et du rail, ils sont différents.
Ah bah oui, ouais, c'est complètement mini Simon. En plus, là, il est, là, c'est un modèle que je fais. Celui-ci, c'est celui-là, il est complètement différent. C'est un truc que je développe. Ça va complètement un peu à l'encontre de ce que je fais. Tu vois, il y a une sorte de concave deck dessus.
Ouais. Tu reviens au skate là.
Ouais, exactement. Et il y a plusieurs planches dans cette planche. C'est super intéressant. Et là, j'essaye de faire plusieurs variations, tu vois, de cette board qui va être un modèle bientôt.
C'est pour surfer tout type de vagues?
Ouais. Plutôt, écoute, moi, je le surfe, ça fait tout l'été. Je le surfe depuis tout l'été, là.
Ouais.
Et j'adore parce que j'ai surfé dans des bons parleux, genre 2 gros mètres. J'ai surfé dans des toutes petites vagues. Et j'adore le fait, en plus, en été. Aujourd'hui, chez nous, c'est difficile de surfer des longues boards comme tu veux, tu vois. Il y a tellement de monde.
Ouais, que d'avoir un peu contraint par la, ouais, le monde à l'eau.
Hein. Ouais, et qu'une petite planche comme ça que tu peux trimballer partout, et ben c'est hyper
c'est
rafraîchissant.
C'est combien là, parce qu'elle a l'air c'est vraiment courte.
5-5.
Ouais, 5-5.
Elle fait 3 1/4 sur les arêtes là, sur le top, et ça fait 22 de large.
Donc, c'est la seule que tu as fait.
Ça c'est la première
version. Modèle, ouais,
c'est ta première version. Ça c'est la première version qui, pour le coup, quand on en parlait tout à l'heure, je trouve que celle-ci est super, tu vois, en termes de proportion, tu vois.
Non,
celle-là, franchement, faut refaire la même. Elle est trop bien. Après, j'ai essayé une autre version plus longue, un peu plus étroite, qui vient d'être finie là, la semaine, vendredi. Donc là, je vais essayer. Il faut que j'essaye.
Que t'appelles encore Mini Simon?
Ouais, bah là, c'est un Mini Simon. J'ai même pas vraiment de nom pour le Mini Simon, tu vois. J'ai pas trouvé de nom encore. J'aime bien trouver des petits noms au plan, généralement.
Ouais, d'ailleurs, tiens, tu peux me dire qu'est-ce qu'on regarde là, si bah, tu le refais, parce que je me suis un peu embrouillé,
ouais,
là.
Alors là, il y a pas spécialement les nose riders et tout. Là, c'est mon quiver à moi, en fait. Ce que je te montre, c'est ce que je surfe. Il manque un glider, mais c'est principalement ce que je surfe. Donc là, t'as. Alors, j'ai essayé de le faire dans l'ordre de ce que j'ai fait. Donc c'est là, t'as une Minou, la 3 lattes là,
ouais.
Qui est une planche. Je te disais, c'est un mélange entre. En fait, c'est une sorte de. C'est un speed shape avec des rails très pincés et un rocker assez tendu. Chose que tu peux surfer avec une grande dérive là. Tu peux surfer dans pas mal de vagues différentes. C'est une planche assez rapide. Et c'est comme un petit longboard, quoi, tu vois, mais que tu peux bouger quand même. Donc t'as c'est foilé tout le long et donc ça, t'as pas de retenue d'eau, tu vois, ça file, quoi. Et ça, c'est 3 lattes.
C'est hyper pincé.
Ouais, très pincé, ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est des planches que moi j'ai adoré surfer dans des vagues creuses aussi. Parce que t'as une planche qui accroche bien qui tient bien le rail dans la face de vague. et c'est hyper cool. Enfin, j'adore ces boards, tu peux la surfer dans plein de conditions différentes. Néanmoins, pour surfer Guettari, c'est une planche, c'est la Minou, que j'ai fait début du Minou, parce que parce qu'en fait, tu la surfes un peu avec des patchas rapides, quoi, tu vois. Et puis c'est une planche très rapide, très véloce. Et
la dérive fixe, tu le fais tout le temps ou
non? Pas forcément. De... Là, ouais. Celle-là, elle y est là-dessus. Mais...
C'est toi qui l'ai fait quand on a des.
Celle-là, c'est moi qui l'ai faite, mais des fois, c'est des dérives que je récupère aussi. Okay. Donc je coupe en base et je la colle, tu vois.
Je remarque que t'as que du single fin.
Non, bah à part le twin.
Ouais, à part. Ouais. Évidemment, du coup, à part la mini.
Mais ouais. Là, t'as la Ilou, qui est la planche que je me suis faite pour Guettari, principalement. Et que je surfe depuis 5 ans maintenant, la même. C'est pareil, c'est la première version que j'adore. Elle a encore le petit défaut d'être légèrement plate, celle-là. Mais, et là, tu vois, la petite déco un peu à la Gibson, tu vois.
Ouais.
Orange et marron, ouais. Comme ça. Là, il y a une latte en cèdre dessus, tu vois bien, il est assez brillant. Et c'est une planche que j'ai surfé dans plein de vagues. J'ai eu mes plus belles vagues à Guettari avec ça, parce qu'il y a du volume et du contrôle. C'est quand même une grande planche.
Elle est très parallèle. Enfin, ouais. L'outline est très parallèle. Quand ouais. Tu sens que c'est.
Ouais. T'as quand même une ligne qui tombe bien là, mais oui, il y a quand même beaucoup de largeur, quoi. Mais il faut, parce qu'il faut du volume. Et puis parleux, elle est pas creuse, quoi. Tu vois. Enfin, il y a certains parleux où tu peux l'avoir creuse, mais elle l'est pas forcément, quoi, en fait.
Alors pour le coup, le rail, ça a vraiment rien à voir avec la mine.
Ah non, ça c'est un bon rail de single, très plein et tombant.
Et... Même l'épaisseur, non?
Ah ouais, là il y a 3 quarts d'épaisseur. Ouais. Pour une 8-6, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Mais en fait, à Guettari, c'est super. Parce que tu as ce confort à la rame, et vu qu'elle est étroite, tu la bouges bien, quoi, en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En revanche, elle est pas très 20, large, quoi, pour
elle
le
fait
coup.
20 quarts, celle-ci, et tu vois, ouais. C'est ce que je fais entre... 20 et 21, plus ou moins. 21, c'est rare, mais c'est plus autour des 20, quoi. J'ai fait une variation de celle-ci que j'aime bien surfer quand il y a un peu plus de taille. C'est celle-ci, là, qui a eu le même template.
Ah oui ?
Ouais.
La pin taille.
Sauf que j'ai resserré l'arrière. Ce qui fait que, tu vois, au lieu d'avoir ce coin, là,
ouais.
Tu vois, ce coin, il va sur la latte. Et ça donne ça, en fait. Tu vois, comme je te dis, tu vois, on dirait pas, mais c'est exactement le même outline que la... Donc ça resserre, tu vois, le nose est le même et ça resserre vachement l'arrière, tu vois.
Ça reste le même modèle dans ta gamme ou tu lui as donné un autre?
Non, j'ai pas donné de nom à ce modèle encore.
C'est une variation. Pintail.
Ouais, c'est une variation de la Ilou. C'est pour ça que sur mon site, tu vois, je mets les variations des nose riders. Il y a certains modèles où j'ai mis des noms, tu vois, comme la Nana, parce que c'était la planche d'Elisa. Elle l'appelait Nadine et moi j'aimais bien Nana. C'était le chien de Gainsbourg, tu vois. Je trouvais ça cool et puis ça fait Nana aussi. Il y a plusieurs sens dans le nom, je trouve ça comme minou d'ailleurs. Et voilà, j'ai choisi Nana pour ça, quoi. Mais le nose rider à proprement parler, moi je l'invente pas, quoi. Tu vois, donner des noms, des fois tu peux pas tout.
Oui, c'est un nose rider.
C'est un nose rider en fait, quoi. Voilà, quoi. Après, les gens ils aiment bien les noms, c'est cool.
Et du coup, d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais tes modèles, tu les adaptes vraiment beaucoup à chacun ou c'est à la marge?
Non, il y a une marge, quoi, quand même. En fait, la majeure partie des gens, ils viennent pour un modèle qu'ils ont vu, auquel ils sont sensibles. Par exemple, la Nana, le Nose Rider, la Ilou, tu vois, ou c'est principalement ça, ou la Gala, par exemple. Mais, et puis, en fonction de ça, tu vois, des fois, le mec, il va me dire, ah, mais moi, mon truc, j'adore ta Minou, mais putain, j'adore les Pintel. C'est un Squirtel. T'es là, bah, vas-y, si tu veux. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas essayer ça. Et puis, de là, le mec, il va me dire, bah, je vais lui dire quand même un Pintel dessus. Bon, pourquoi pas, tu me diras, on peut tester. Mais qu'est-ce que tu surfes comme vague? Le mec, il va me dire, ah, moi, je surfe beaucoup par le et tout. Je lui dis, ouais, mais attention, tu vois, limite, la Minou, elle est presque, tu vois, les bottoms foilés. Moi, je trouve que ça va presque trop vite à part le, c'est difficile à maîtriser. Donc je vais peut-être l'orienter vers la Ilou, tu vois. Je vais dire, ah, ben, regarde celle-là, plus facile à faire en pintail parce que le squirtail est plus petit, tu vois. Mmh. Et puis ça c'est plus légitime, enfin pour moi, tu vois, de mon œil, d'avoir un pintail avec une dérive comme la Ilou, une dérive de single fin vraiment dure, tu vois, une dérive raide. Alors que la Minou c'est une dérive flex et le flex avec la, je trouve avec la vitesse c'est difficile à à gérer.
T'as
quoi.
Besoin de plus de relance.
Ouais, et puis tu sais, c'est un peu comme le mec qui skate, qui fait du downhill avec des trucs desserrés, quoi. Je vais pas le tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, le mec, quand il va trop vite, là, ça gigote. Et tu peux avoir cette sensation, tu vois, Pintel, par exemple, avec des reflex. Je trouve que c'est compliqué. Mais un mec comme Tristan, par exemple, qui le fait, te dirait autre chose. Mais c'est voilà, c'est en fonction des shapers, tu vois. Moi, c'est mon approche, tu vois, je suis. J'adore cette approche, tu vois, du single, justement avec du contrôle à part le. J'adore ça.
Et les deux à droite?
Les deux à droite, il y a une. Alors, il y a deux inspi des planches que j'ai faites. Il y en a une, c'est celle de gauche, c'est une inspiration d'une Joe Quigg, justement. On en a parlé avec le Todd Pinder tout à l'heure, et il avait fait en fait une planche pour son fils, je crois. Avec qui était une planche de rame aussi, pareil, avec un volume qui était vachement décalé sur l'arrière et qui était une planche pour principalement ramer et puis prendre la vague, tu vois, prendre les 2-3 vagues en sortant, tu vois. Et je m'étais fait cette board là. Et celle de droite, c'est une inspiration un peu à la patte Curren, tu vois, le gun pour Guetta Harry assez tendu. Qui finalement, en fait, je l'avais pris pour Guetta Harry et puis je l'adore dans les petites vagues, en fait.
Ah bon?
C'est une 10-6, mais vu le volume, le rocker assez tendu, elle marche super bien dans les petites vagues.
Ça te fait un genre de glider.
Ça fait un glider, en fait. Et je la surfe comme ça. Parce que je l'ai eu à Guetta Harry, mais c'est pas le truc qui m'a... Ça m'a pas transcendé, en fait. Alors qu'elle a une gueule de gun, hein, tu la vois. Le pintel est lancé... assez étroite.
Mais elle a pas trop de rocker pour les petites vagues et tout.
Ouais. Non, elle est assez tendue justement, elle est assez plate.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. C'était dans un pain de les 11 3D là, qui sont assez quand même assez tendus et en fait je l'aime bien comme ça cette planche, je l'aime bien dans les petites vagues, elle est top. Donc c'est mon glider un peu.
Mon glider.
Qui a une gueule de gun mais ça marche super parce que du coup dans les petites vagues c'est pareil, t'as pas de retenue tu vois là, au cul. Vu que t'as peu de push, t'as peu de puissance sur une petite vague, quand t'as un tail qui est assez affiné aussi, enfin tu vois, c'est pareil, tu vois, le tail file quoi, sur une grande planche, quand t'as du volume.
Ça se surfe d'une certaine manière aussi.
Ouais, bah ouais. Mais finalement, c'est marrant, j'y trouve mon compte dans les toutes petites vagues.
Ouais.
Et ouais, tu vois, et j'adore. Après, là, t'as le Duende, t'as le Pig, qu'on a dit, et puis l'Ilou qui est là. Et d'ailleurs, il y a une petite incrustation dans cet Ilou, le Pintail,
ouais.
Avec, tu vois, c'est un...
Et cool, la Pinline aussi.
Une sorte de broche, ouais. Ouais, bah ouais.
Ça, tu l'as récupéré.
C'est une broche, ouais.
Ah, c'est une broche
Que j'ai stratifié, enfin, que j'ai inclus dedans, quoi, tu vois.
Ça rend super bien, on dirait un petit mandala.
Ouais, c'est ça, ouais. Elle est belle, la broche.
Ouais, ouais, ça rend super bien.
Ouais, bah là, tu vois, maintenant je fais toujours des patchs comme ça, je me suis lancé à faire ça, tu vois, visuellement ça fait quelque chose que les gens remarquent, tu vois, le patch de cette forme, enfin moi je le fais sur toutes mes planches maintenant.
Ah ouais, tu le fais systématiquement?
Ouais, tu vois là.
C'est ta signature.
Bah celle-là elle est un peu plus ancienne donc elle y est pas, mais ouais, toutes les planches maintenant c'est comme ça.
Et t'as d'autres modèles qu'on n'a pas sous les yeux là, dont t'as envie de parler?
La Nana, c'est top parce que tu vois, moi j'aime beaucoup travailler avec les surfeurs, tu vois, et parce que c'est ça le truc. Parce que même moi, au bout d'un moment, tu vois, ma propre perception du surf, c'est la mienne, tu vois. C'est pas qu'elle est limitée, tu vois, mais il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Et il y a des modèles forcément auxquels je vais être moins sensible, que j'aimerais faire. Mais c'est pas mon truc en fait, tu vois. Et d'avoir, tu sais, d'avoir des discussions avec les surfeurs et des échanges et de faire des planches pour des mecs en fait ou des meufs, en fait ça t'ouvre pas mal de portes, tu vois, de shape, quoi. Le mec il va te dire, ah non mais moi j'adore les nose ronds, tu vois, sur les nose riders, tu vois, j'adore les double step deck, tu vois, j'adore. Et puis le mec il va t'ouvrir, tu vois, un truc, une porte, tu vois. Moi personnellement, tu vois, j'ai déjà essayé le double step deck, si on prend cet exemple-là. Mais vu que je suis pas un mec qui fait...
Tu peux expliquer ce que c'est?
Le double step deck, c'est quand tu affines sur le top le nose et le tail. Ce qui fait que ça t'allège vachement les deux extrémités de la board. Et combiné à un rocker, tu vois, ça fait vachement lifter la planche sur le nose et ça, c'est bien pour le pour les nose riders. Assez technique parce que ça fait des rails plus fins aussi, mais c'est hyper fonctionnel. Et il y en a qui adorent, tu vois, il y en a qui aiment pas spécialement, il y en a qui aiment bien le nose rider porte, tu vois. Généralement les double step decks, c'est, tu vois, t'as plus de, enfin c'est des planches plus affinées quoi. Mais
Et la
encore que
nana,
en... Et la nana,
c'est
il y a un
ton cas?
léger, il y a un léger step deck devant, tu vois. Mais la nana, en fait, c'est une planche qu'on a fait avec Elisa, qui est le template de mon nose rider. C'est mon nose rider un peu à l'australienne en fait, un peu plus tendu le rocker, tu vois. Donc ça marche bien dans nos vagues, tu vois, un peu plates ici. Et le tail et le nose rétrécit, tu vois. Ce qui fait que ça en fait une planche un peu plus légère qu'un nose rider. C'est un longboard qui tient bien les noses et puis qui est bien maniable aussi, tu vois. Généralement, tu mets une dérive un peu flex dessus. Donc ça fait une planche qui bouge bien, un peu à l'australienne, quoi. Vraiment un peu à la Thomas, un peu tous les shapers australiens. C'est une planche, ouais. C'est la nana, ça c'est avec Elisa qu'on l'a fait. Elisa, c'est une surfeuse de la côte aussi, qui est à fond, pour qui je fais les planches et qui est une super nana et qui adore partager en fait et tu vois autant dans la vie que dans le surf et c'est hyper agréable de faire des planches avec elle parce que en fait moi je suis comme ça aussi, je discute beaucoup, j'échange beaucoup et elle adore ça aussi et du coup ça matche bien tu vois et voilà pareil pour Simon. Il y a plein de surfeurs comme ça avec qui je travaille beaucoup, le Arnaud aussi, Mestelan, qui sont des gars qui m'ont beaucoup inspiré. Tu vois, tous ces gens, ça fait comme un peu comme un groupe de musique après. Enfin, tu vois, il y a des, c'est des, c'est un combo en fait. Il n'y a pas qu'une seule personne qui fait les planches. Comme dans les films aussi, tu vois, quand t'acceptes que c'est une équipe qui fait un film, c'est cool en fait. Tu vois, parce que c'est pas la seule personne et ça implique aussi pas mal de gens dans une équipe pour arriver à un produit, tu vois, un design, un produit final, quoi, tu vois. Et c'est comme, et c'est pareil, que ce soit dans le film, dans tout, hein, d'ailleurs, dans la musique, dans le surf, c'est pareil, la planche, c'est moi qui l'achète, mais par exemple la planche pour Elisa. Mais c'est une idée qu'elle a eue, ça émane d'une discussion, d'un échange qu'on a eu ensemble. La planche, je vais la chéper, d'accord? Elle va être glacée par un autre gars, poncée par un autre type, tu vois, et c'est des choix de personnes avec qui tu travailles aussi qui font que la planche, bah, elle est bonne à la fin, quoi, ou pas. Mais
On va dire que si.
généralement, ouais. Bah, après, t'es jamais à l'abri, hein, d'une planche qui marche moyen. Mais généralement, c'est les planches qui marchent pas. Elles marchent pas pour. Ça a pas matché avec quelqu'un, mais ça matchera avec quelqu'un d'autre en fait, parce qu'une planche qui fondamentalement, tu vois, elle est. Tu vois, au niveau du rocker, des rails, tu vois, elle marche bien, mais peut-être que par exemple pour Simon, ça marchera pas, mais pour Elisa, elle va adorer, tu vois.
Oui.
Moi, ça m'est arrivé de me faire, par exemple, je me souviens, je m'étais fait une Minou super light, un speed shape comme ça, 8-6, avec une latte très fine, et en fait, je l'aimais pas cette planche. À un moment, j'ai dit, bah vas-y, Elisa, essaye là, tiens. Et cette Minou, elle a adoré, parce qu'elle a les appuis peut-être. Je sais pas, elle préférait cette planche en fait, elle l'a adorée, elle a surfé je sais pas combien de temps. Et tu vois, elle a une planche qui est bonne pour qui est mauvaise pour quelqu'un, forcément elle va être bonne pour quelqu'un d'autre. Moi, à moins que ça soit vraiment une saucisse, mais bon, ça arrive, mais pas avoir de bol quoi.
T'étais pas en forme ce jour-là.
Ouais. Bon après les saucisses, j'en fais moins, mais comme on dit. Quand tu fais du custom, forcément, t'es pas dans, tu te mets pas tout dans une case, donc tu sais jamais, tu vois.
Ouais, tu peux pas anticiper.
S'il y a vraiment un custom, tu sais, à 100%, des fois, ça peut arriver. C'est rare quand même. Hein. Franchement, moi, j'ai jamais eu de. C'est comme les casses, j'ai rarement eu des casses.
Ah
les
oui.
Planches, elles sont
sur les grandes planches comme ça.
Non,
Ça
ouais.
peut.
Les planches, elles sont costauds, tu vois. J'ai jamais eu de casse, jamais. Une seule. Bah, cette planche d'ailleurs, la Minou, qui était glacée très légère. Et en fait, Elisa l'a prêté à un pote, il a pris deux vagues avec, il a pété en deux. C'était
Non.
même pas la. C'était ouf.
C'était même pas elle.
Ouais, c'était même pas elle. Elle était verte, je m'en souviens, c'était marrant.
Et t'as d'autres modèles qui te viennent en tête ou
Ouais,
t'as fait le tour?
bah. Là, en ce moment. Là, j'ai. chose que je fais beaucoup, c'est quand même la Nana, le Nova Rider, les Minou. C'est pareil, il y a plusieurs versions des Minou aussi. Il y a une version plus traditionnelle avec des rails ronds, tu vois. Et il y a la version Speed Shape que tu as derrière toi. Là.
Ouais, c'est des modèles sans en être, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des templates tellement sans époque, tu vois. Tu vois, ils les faisaient déjà à l'époque, ces outlines, là, tu vois, ce truc-là. Que tu peux utiliser ces courbes pour faire plein de versions différentes d'une planche, en fait. Et la Minou, tu vois, quand on appelle la classique Minou avec Simon, là, et c'est des rails pleins, c'est un rocker tendu, c'est en mode Phil Edwards et tout, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est aussi faire des répliques de ces planches-là qui n'existent peu aujourd'hui, tu vois, et que moi, j'adore les refaire, et puis, tu vois, l'air de rien, une planche dans l'eau, même si c'est Simon qui va la surfer 2 ans, ou admettons, ou moi, après, elle passera dans d'autres mains, et c'est des planches qui... tu vois, des années après, il y a bien un gars qui va l'essayer, qui va être sensible, tu vois, à ça, et qui va adorer, en fait. Il va se dire, putain, c'est trop bien, j'ai cette planche, tu vois, c'est... Et les planches, tu vois, elles mettent du temps à mourir, à finir dans une benne, quand même. Ça met des dizaines d'années, quoi, tu vois. Donc, elles sont resurfées. Ça passe dans plein de mains différentes, quoi, tu vois. Donc, finalement, ce que tu fais à un moment, ça va forcément avoir un impact plus tard, tu vois, pour quelqu'un, peut-être. Tu vois, ouais. C'est ça qui est cool de se dire aussi, je trouve, en faisant des planches, c'est que ça va, tu sais, c'est très large, en fait. Ça va loin aussi dans le temps. Et quand tu fais des planches comme ça qui tiennent le coup, c'est des planches qui vont un peu traverser les époques aussi, quoi, tu vois. Bah, un modèle dont on n'a pas parlé, que j'ai fait pour Arnaud, c'est la Carca Bueno, et qui est une réplique, parce que tu peux pas faire autrement, tellement le design il est beau et fonctionnel. C'est une réplique d'un single fin, d'ailleurs, que j'ai à l'atelier, mais tu regarderas sur le site. C'est le single fin classique avec les rails pleins comme ça, le flat deck, le rocker, le back nose, round pin comme ça. Et lui, il adore ça, il les surfe, en plus, il les surfe trop bien. Et en fait, je m'en étais fait une, on l'a appelée le Pimiento, elle était rouge évidemment. Et je l'ai surfé pendant longtemps et je l'ai vendue. Et elle est partie, elle s'est complètement perdue cette planche. Et un jour, elle ressort sur Vidcouver, genre je sais plus combien, 200 balles ou 300 balles, un truc que dalle. Et du coup, c'est Jaco, un pote qui surfe les planches aussi, qui l'a acheté. Et en fait, la planche, elle était nickel. Putain, elle avait rien, j'en revenais pas. C'était un pain Burford, un pain australien. Et la planche, elle était, et là, il la surfe encore, Giacomo, alors que la planche, elle a déjà 7 ans, tu vois. Mmh. Voilà. tu sais, ça ressort de nulle part. Des fois, t'en vois des planches. Et puis, j'imagine, bah, plus le temps passe et plus t'en as des histoires comme ça. Mais là. Ouais, la Carca Bueno, on l'a appelé comme ça parce que. Comment il s'appelle ? Arnaud, il est. Il a un magasin qui s'appelle les guides au guide baigneur à Biarritz et Carca Bueno, c'était un sauveteur émérite et courageux de la grande, enfin de Biarritz, qui les sauveteurs à l'époque s'appelaient les guides baigneurs et en fait ça matchait bien en fait avec cette board parce que la board c'est ce genre de planche, les singles comme ça, comme la Ilou d'ailleurs, c'est des planches qui sont hyper safe et t'as pas peur en fait. T'as pas peur de te jeter, c'est des vagues. À chaque fois, si au début tu vas, elle a du volume, tu dis oh je vais la surfer dans 1m20, tranquille et tout. Puis en fait, hein, tu la dans 1m20, tu regardes, tu prends quelques vagues, tu te dis oh putain il pourrait y avoir 1m2+, enfin 1m2+, enfin je suis trop en confiance quoi. Puis petit à petit en fait ça te fait aller vers des, enfin, c'est une planche qui donne un peu le courage quoi et qui te donne confiance. Et voilà, ça allait bien le Carca Bueno avec, c'était marrant quoi. Voilà. Sans peur. Il avait pas peur de rien, apparemment. Il allait dans des conditions de malade pour aller sauver des gens au péril de sa vie. Voilà, quoi.
Bon, ok. Mais écoute, merci.
Bah, de rien. Bon, non, mais on pourrait parler longtemps. Hein. On a déjà fait pas mal, là.
Bah, ouais, je crois. Ouais.
Et voilà pour ce 5e épisode consacré à Nage Surfboard. Merci à Jean d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé tout ça avec nous. Rendez-vous sur son Insta nage_surfboards ou sur son site nage-surfboards.net pour découvrir tout son travail et suivre son actualité. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes, mais aussi un lexique, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.